Quand nous avons préparé cette célébration avec Quentin et Ève, qui ont mis beaucoup de temps et beaucoup d'énergie et d'amour dans cette préparation au mariage en général et de façon particulière dans cette cérémonie, je leur ai donné un critère pour choisir les lectures. Ce critère, c'est que la lecture que vous choisissez, de la parole de Dieu évidemment, soit une lumière pour votre chemin, soit un guide, parce qu'on le sait, la parole de Dieu est une parole vivante, ce n'est pas simplement une parole de sagesse humaine, fut-elle très belle cette parole ou un beau poème, c'est la parole de Dieu. Et Dieu se donne dans sa parole qui est le Christ, mais Dieu se donne dans sa parole aussi qu'il nous a donnée dans les évangiles et ensuite préparée par les prophètes, accomplie par son Église. Oui, c'est bien dans cette perspective que Quentin et Ève ont choisi de façon assez étonnante, vous le reconnaîtrez avec moi, la parabole dite du fils prodigue pour leur évangile de messe de mariage. Parce qu'en général, moi je fais beaucoup de préparation au mariage, j'en célèbre quelques-uns, mais vous avez la maison fondée sur le roc, vous avez les noces de Cana, vous avez aimez-vous les uns les autres, bon, tout ça on est pour, je veux dire, mais vous avez plusieurs évangiles possibles, soyez la lumière du monde, bon, magnifique. Mais un évangile comme ça, on se dit, quel rapport avec la vie matrimoniale? Et pourtant, ça l'éclaire de façon suréminente. Parce qu'au fond, à travers le fils prodigue et le fils aîné, il y a comme les deux grands dangers de la vie matrimoniale, de la vie aussi, on peut dire, en communauté. Comme moi, comme religieux, je vais avec des frères, mais je me sens tout à fait rejoint par rapport à cet évangile dans ma vie fraternelle, même dans ma vie communautaire. Le premier danger, le fils prodigue, l'herbe est plus verte ailleurs. Et donc on ne fait pas mémoire du don qu'est l'autre. On n'est plus dans cette admiration, dans cette reconnaissance, dans cette gratitude que l'autre, le conjoint avec lequel je me suis engagé, est une grâce pour ma vie, est une miséricorde pour ma vie. On n'est plus là-dedans, on est au contraire à voir vite les défauts. Et je me rappelle, moi, comme jeune novice, quand je suis rentré dans la communauté, pour moi, tous les frères étaient des saints. Au bout d'un mois et demi, ça avait beaucoup changé. Des saints en devenir. On peut dire ça comme ça. Bon, c'est des saints hommes aussi, à leur manière, mais bon, c'est là que le Seigneur nous attend. C'est là où le Seigneur est dans la vie matrimoniale, il en est de même, la rencontre, l'éblouissement, l'émerveillement, voilà. Fait place ensuite dans la vie commune, aux défauts de ranger, de ronfler, de que sais-je, voilà, chacun aura un peu les défauts du quotidien. Comment garder cet émerveillement? Comment garder cet émerveillement? C'est ça au fond, le cœur. Le fils prodigue, il a dit, le bonheur il est ailleurs. Il est ailleurs le bonheur, loin de Dieu, puisque là aussi le Père prend la figure de Dieu. Et donc, loin de Dieu j'aurai le bonheur. Et puis ensuite, on se perd, et on essaye différentes choses, et puis finalement, ça ne marche pas. Et puis, peut-être notre cœur revient avec confiance vers Dieu, parce que c'est lui qui nous donne le bonheur, parce que c'est vraiment lui qui nous donne la paix intérieure. Alors, c'est ce premier danger. Et pour lutter contre, je pense que c'est important dans la vie matrimoniale, comme dans tout appel, de faire mémoire. Faire mémoire de l'appel que vous avez reçu, de cette certitude intérieure que vous avez expérimentée, Quentin et Ève, et chacun d'entre nous qui avons pris cet engagement dans la vie matrimoniale, ou un engagement aussi pour moi dans la vie consacrée, faire mémoire de la beauté de l'appel. Parce qu'au fond, vous avez répondu à un appel en vous engageant. Et donc, en faire mémoire, c'est-à-dire qu'on reprend conscience. On se remet devant les yeux la beauté de la grâce que l'on a reçue, que l'autre est une miséricorde pour notre vie. Au-delà de ses défauts, de ses... Voilà, oui, voilà, bien sûr. On est fait de creux et de bosses. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la nature humaine. La nature humaine est fragile. Mais c'est pas ça d'abord que je veux voir. Je vais pas me laisser entraîner par ça. Parce que sinon, je serai dans la critique, dans la comparaison, voire dans le doute. Non, je veux demander au Seigneur, et c'est pour ça que vous êtes ici aujourd'hui, Quentin et Ève, devant l'autel du Seigneur, vous voulez demander au Seigneur la grâce d'un émerveillement renouvelé. Oui, il y a eu le premier émerveillement, le premier amour, l'éblouissement de la rencontre, mais cet émerveillement, je trouve qu'il peut aussi être duré de façon différente. L'amour se transforme, et ceux d'entre vous qui ont plusieurs années de vie matrimoniale, eh bien, vous pouvez aussi témoigner de cet amour qui se transforme, mais peut-être aujourd'hui de redemander la grâce de qu'est-ce qui m'a touché dans l'autre? Pourquoi je me suis engagé avec l'autre? Qu'est-ce qui m'a touché dans sa manière d'être, dans sa personne? Hein, c'est ça, c'est la personne même de l'autre qui nous a touchés. Alors c'est le premier écueil de la vie matrimoniale, le fils prodigue, celui qui part, celui qui pense qu'ailleurs, eh bien c'est mieux, loin de son père, c'est mieux. Hein, mais loin de son père, non pas comme... C'est intéressant, on peut faire le parallèle avec quitte ton père et ta mère, mais c'est pas du tout pareil là, loin de son père, parce que pour lui le père est une menace. Non, quitte ton père et ta mère, c'est autre chose. Tu as reçu un don qui t'a précédé, et vous Quentin et Ève, vous me l'avez dit bien des fois, dans votre famille, vous avez reçu un don, vous avez dans votre famille, dans vos grands-parents, etc. Et ce don-là vous permet de les quitter, mais non pas quitter fâché. Mais quittez parce que vous avez reçu beaucoup, et parce que vous avez reçu beaucoup, à votre tour aussi vous voulez donner beaucoup. C'est ça quitter, pour s'attacher l'un à l'autre. Le deuxième écueil, c'est le fils aîné. Le fils aîné, c'est le premier de la classe, c'est bien simple, et il a tout fait bien. Dès la maternelle, il se mettait la pression. Donc, bon, c'est pas dans la Bible, mais bon, c'est une libre interprétation, j'allais dire. Mais voilà, le fils aîné, hein, c'est celui, au fond, je n'ai jamais désobéi à aucun de tes ordres, ce qui n'est pas rien. Quand vous savez que le juif pieux, et Jésus s'adresse à des juifs, le juif pieux doit pratiquer les 613 commandements de la Torah tous les jours, etc. Donc, je n'ai jamais désobéi à un de tes commandements, à un de tes ordres. Jamais. J'ai tout fait bien. Mais où est le problème du fils aîné? C'est qu'il n'est pas vraiment fils. Il n'a jamais rien demandé. Il n'a jamais rien demandé. Et le père lui dit, mais tout ce qui est à moi est à toi. Il suffisait de demander. Il suffisait de te laisser aider. Hein? Et se laisser aider, c'est se laisser aimer, évidemment. Hein? Se laisser aider, c'est se laisser aimer. C'est accueillir aussi qu'on a besoin de l'autre. Il était tout à fait autonome. Autonomos, hein, en grec, celui qui a lui-même sa propre loi. Il n'était pas fils. Il n'était pas fils, et parce qu'il n'était pas fils, il n'était pas frère non plus. Ton fils que voilà. Regardez dans le livret. Ton fils que voilà, le tu qui tue. Tu as fait ceci, tu as fait cela. C'est en nous. Et donc, on voit que le combat du fils aîné, c'est d'accueillir aussi une certaine vulnérabilité, d'accueillir peut-être la fragilité de son fils cadet, le fils qui est renvoyé tout baladé, qui a mené une vie de désordre, et de se laisser toucher par cette vulnérabilité. Parce que c'est vrai qu'au fond, derrière le fils aîné, il y a une forme de perfectionnisme. Il y a une forme de perfectionnisme, il fait tout bien. Il ne comprend pas la faiblesse, il ne comprend pas. Il ne comprend pas, il ne comprend même pas son père. Je veux dire, c'est de la faiblesse, quoi. Comment tu vas pas? Il faut au moins une pénitence, quoi. Tu fais tuer le veau gras, c'est quoi cette histoire? Il a pris ton héritage, c'est-à-dire quand on prend l'héritage du père, c'est qu'on le considère comme mort, pratiquement, c'est ça que ça veut dire. Demander l'héritage, c'est pour le moins délicat. Et donc on voit bien que le fils aîné, il a tout un chemin à faire de conversion intérieure pour accueillir aussi la vulnérabilité et de ne pas voir la vulnérabilité comme une menace. Et dans la vie matrimoniale, il en va de même. de ne pas voir la vulnérabilité de l'autre, parce que le couple, évidemment, et ainsi que nous-mêmes, nous passons par des hauts et des bas, et il peut y avoir des aléas dans nos vies, aléas de santé, aléas professionnels, aléas liés parfois à des deuils de personnes qui nous sont proches, etc. Bon, tout ça, on ne le maîtrise pas. Et derrière ça, le fils aîné, il voulait tout maîtriser. Alors, je trouve que c'est ces deux écueils. Et ça, ce perfectionnisme-là, le pape Jean-Paul II l'a très bien dit à un moment donné, donc, quand il a parlé de la spiritualité de communion, il a dit « le perfectionnisme, voilà quelque chose qui s'oppose à l'amour, parce que ça ne laisse pas l'autre être fragile, ni soi-même être fragile. » Mais peut-être il peut y avoir une autre lecture de cette magnifique parabole, c'est que « et s'il s'agissait de la même personne, et le fils aîné, et le fils prodigue ?» Si en nous, il y avait en même temps celui qui était fort, celui qui faisait tout bien, et en même temps celui qui veut partir, parce qu'il ne veut pas dépendre d'une certaine manière, il ne veut pas rendre des comptes, il voit Dieu comme une menace, il voit le conjoint comme une menace. Les deux peut-être habitent en nous, alors, et se font la guerre en nous-mêmes. Alors la solution, tant pour le cadet que pour l'aîné, c'est vraiment de se redécouvrir fils, c'est-à-dire de voir dans l'amour du Père et dans l'amour du Père céleste, de voir dans cet amour quelque chose qui va aider dans l'accomplissement de leur vie, dans la fécondité de leur vie. Ça ne va pas s'opposer. Le Seigneur ne nous enlève rien lorsqu'on se donne à lui. Au contraire, il se donne lui-même parce qu'il ne sait que se donner lui-même. Il ne nous enlève rien. Mais faut-il l'expérimenter? Faut-il en demander la grâce? Est-ce que vous venez aujourd'hui auprès de l'autel du Seigneur, Évêque Quentin, pour cela, pour demander cette grâce d'avoir un amour fort? Un amour fort qui fait que, et vous l'avez dit dans le choix de la première lecture, supportez-vous, on a parlé hier ensemble, ça a deux sens. Supportez-vous, il faut que je te supporte, etc. Mais supportez-vous, tu supportes en anglais, c'est encouragez-vous. C'est pour ça que vous êtes à deux. Vous vous encouragez pour voir l'autre comme un don, pour voir l'amour de Dieu comme une grâce. Vous vous encouragez pour accueillir à certaines heures les moments difficiles de la vie de couple. Voilà, mais vous vous encouragez. Et non seulement vous encouragez, mais vous voulez confier au Seigneur cet amour et en faire mémoire tout au long de vos vies. Et ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est ça, c'est le primat de la confiance. Le primat de la confiance. Parce que vous faites confiance, Quentin et Ève, et vous tous qui vous êtes un jour donnés devant l'autel du Seigneur dans le sacrement du mariage, vous faites le primat de la confiance. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, mais vous savez avec qui vous le vivrez. C'est pas rien, ça. Et comme notre monde a besoin de voir des témoins de la confiance en Dieu, un besoin, j'allais dire, urgent, nos sociétés sont bousculées, bouleversées, malades, violentes, et on voit bien les durcissements, les raidissements identitaires sont aussi au rendez-vous. Eh bien, nous, chrétiens, disciples de Jésus, nous apprenons à faire confiance. Non pas parce qu'on est meilleur que les autres, mais parce qu'on est conscient qu'on a reçu un don, une grâce, le baptême, la vie chrétienne. Alors, puissions-nous, chers amis, en ce jour, renouveler aussi notre adhésion au Seigneur. De tout cœur, je ne sais pas, je ne vous connais pas, où est-ce que vous en êtes au niveau spirituel les uns et les autres. Je pense que la plupart vous êtes baptisés, mais certains sont en cheminement, certains peut-être ont délaissé la vie de foi. Voilà, mais la question spirituelle, qu'elle reste ouverte dans le cœur de chacun. pour pouvoir renouveler la confiance en celui, en celle qui vit à vos côtés. Alors c'est cette grâce que nous demandons pour vous, chère Ève, cher Quentin, pour que vous puissiez être aussi des témoins d'un Dieu qui nous appelle des ténèbres à son admirable lumière. Amen.